Bonsoir à tous, bonsoir Olivier Truchot.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
45e jour de guerre, édition spéciale toujours avec le détroit d'Ormuz qui focalise toute l'attention. Ce blocus décrété par les Américains, blocus des navires partant ou arrivant vers les ports iraniens. Une entrave de la circulation qui est dénoncée par la Chine, par les Nations Unies, la France et la Grande-Bretagne aussi. Et l'avertissement de Donald Trump, attention, si un navire s'amuse à nous défier, il sera détruit. Ça c'est ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. En moment même où on se parle, avec ce stock de navires qui est toujours là. On va aller aux États-Unis retrouver Axel Monnier en direct pour BFM TV parce que, ça y est, Axel, avant de retrouver l'ensemble de nos envoyés spéciaux, de nos correspondants dans la région, Axel Monnier, le blocus est enclenché.
Oui, effectivement, Donald Trump, à travers un message, l'a confirmé implicitement. Il vient de publier un Truth Social sur son réseau social, donc, et c'est une manière implicite de dire que le blocus est désormais effectif, parce qu'il faut le dire, depuis ce matin, ni la Maison-Blanche ni le Pentagone n'ont communiqué sur le sujet. Alors Donald Trump aussi continue de menacer. Il dit que si jamais les petits bateaux d'action rapide, d'attaque rapide dont dispose la marine iranienne venaient à s'approcher de ce blocus américain, eh bien, à ce moment-là, dit-il, ils seront immédiatement détruits. Cela dit plusieurs choses. D'abord, que contrairement à ce que clame Donald Trump depuis le début, depuis plusieurs semaines en tout cas, la marine iranienne dispose encore de ressources, dispose encore de navires. Et la deuxième chose, c'est qu'il continue de menacer l'Iran, de mettre la pression sur Téhéran. Et ça, eh bien, c'est un ton belliqueux qu'on lui connaît depuis plusieurs jours et qu'il ne cesse d'utiliser pour montrer les muscles, pour mettre la pression, probablement pour essayer de mettre les États-Unis dans une position de force vis-à-vis des négociations. Parce que oui, en coulisses, malgré tout, l'effort diplomatique se poursuit. C'est confirmé par plusieurs médias américains, mais aussi des titres de presse du Moyen-Orient qui estiment que les pays médiateurs, notamment le Pakistan, continuent de travailler d'arrache-pied pour essayer de faire communiquer Téhéran et Washington et qu'il pourrait même y avoir des pourparlers dans les prochains jours, à voir si le blocus naval pourrait empêcher tout cela, entraîner une escalade militaire et évidemment une bataille navale, mais ce n'est probablement pas ce que souhaite la Maison-Blanche à l'heure actuelle.
Voilà, Axel Monnier en direct des États-Unis pour BFM TV. Alors on va essayer de comprendre ce qui va se passer dans le détroit d'Ormuz, l'enjeu du détroit d'Ormuz. C'est avec le général Pellistrandi, notre consultant défense pour BFM TV. Donc, le blocus, qu'est-ce qu'un blocus et que va-t-il se passer, général?
Alors, le blocus, c'est en fait interdire à des bateaux du tiers ou d'une partie adverse, de franchir une ligne et d'aller vers le pays avec lequel on est en conflit. Et donc, ce blocus, en fait, pour les Américains, c'est en quelque sorte empêcher que des navires venant rentrent via le détroit d'Ormuz pour aller en Iran, mais surtout pour empêcher que des bateaux ayant chargé, par exemple, des hydrocarbures, vous voyez, ici en Iran, passent par le détroit d'Ormuz pour aller amener leur cargaison quelque part, peut-être en Chine ou en Inde. Et donc, par là, vous avez la flotte américaine qui est là et qui est prête à agir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on a une vision intégrale de tous les mouvements. Les Américains ont les moyens de savoir, de pouvoir identifier tous les bateaux, ceux qui partent, que ce soit des petits bateaux, des gros bateaux. La question après, c'est une fois que l'on a identifié des bateaux qui, a priori, par exemple, chercheraient à quitter, à amener leur cargaison, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les Américains ont les moyens d'intercepter ces bateaux. La problématique n'est pas, en fait, tellement d'ordre militaire. C'est assez facile de prendre un pétrolier. Vous allez envoyer une équipe à partir d'un hélicoptère qui va prendre le contrôle du bateau. Le problème, il n'est pas militaire. Le problème, il est d'ordre juridique et politique.
Justement, nous sommes avec Maître Lotte Guettier. Bonjour. C'est complètement illégal ce que fait, parce que vous êtes spécialiste du droit maritime, ce que font les Américains.
Alors, c'est assez compliqué. Il y a des arguments dans les deux sens. Vous savez, le droit, c'est jamais blanc, c'est jamais noir. D'abord, je voudrais apporter une petite précision sur la présentation éclairante que vous avez faite, général. À l'heure actuelle, et tout à l'heure, je voyais sur cette carte en direct,
on la revoit, des
mouvements des navires. Et parmi ces navires, eh bien, il y en a un, c'est un navire qui s'appelle l'Elpis. Et l'Elpis, c'est un navire de la flotte fantôme, en quelque sorte, qui a chargé du pétrole dans un port iranien qui bat pavillon des Comores et qui est en train de sortir du détroit. On le voit en train de sortir du détroit. Il est dans la petite pointe en haut. Et la question qui va se poser, c'est que va-t-il se passer avec ce navire? Peut-être qu'on va avoir, d'ici 2 heures, d'ici 3 heures, concrètement, un arraisonnement, comme on l'a déjà eu au Venezuela, par les Américains, d'un navire. Alors,
un navire appartenant à la flotte fantôme russe, parce qu'on a fait en France avec les Français d'ailleurs.
Il faut expliquer de quoi il s'agit, la flotte fantôme.
Effectivement, vous avez raison. Les sanctions qui s'appliquent en Russie, les sanctions qui s'appliquent en Iran, ont rendu difficile le transport d'hydrocarbures. C'est compliqué pour les Russes de transporter des hydrocarbures russes, c'est compliqué pour les Iraniens. Et c'est créé en fait une flotte parallèle d'armateurs, souvent détenus dans des pavillons de libre immatriculation, souvent via des sociétés écrans qui vont accepter de transporter ces cargaisons qui sont sanctionnées pour, bien évidemment, une rémunération assez élevée. Et on a ça avec l'Iran. Et à l'heure actuelle, des études ont été faites aux États-Unis et on s'est aperçu qu'au mois de mars, eh bien, il y avait une hausse des exportations de pétrole brut iranien. Alors certes, il y a une baisse du trafic, mais qui a été compensée par la hausse des cours du pétrole. Et donc, on a comme ça des navires qui contournent les sanctions. Depuis le début de la guerre, on s'est aperçu qu'il y a quelques navires immatriculés généralement dans des états peu recommandables qui sont passés.
Voilà. Alors, général Jean-Claude Allard, bonsoir. Quand Donald Trump dit sur son réseau social « tout navire iranien s'approchant du blocus sera éliminé », ça veut dire quoi éliminer ?
Ça veut dire qu'il a l'intention de le couler, mais ça ne veut pas dire que ça sera fait.
Il pourrait couler des bateaux
directement. Bah, écoutez, vous entendez toujours, vous traduit littéralement, c'est il veut le couler, et traduit réellement, c'est que ça ne sera pas fait. Puis voilà, c'est simplement ça.
Alors, s'il ne le fera pas, qu'est-ce qu'il compte faire? À raisonner un bateau, ça veut dire quoi?
Je pense qu'il va demander, c'est ce que a expliqué le général Pellistrandi, ils vont demander à ce que sa marine empêche les bateaux d'avancer, les arraisonne et essaie de les bloquer physiquement en étant à bord pour s'emparer du contrôle du bateau si le bateau ne veut pas obtempérer. Mais enfin, là, on est dans la boue de trajectoire. En fait, en amont, il y a déjà un premier blocage de ce détroit, qui est le blocage des assurances. C'est pour ça qu'il y a une flotte fantôme. C'est-à-dire que son blocage, c'est je refuse que les bateaux qui travaillent pour les Iraniens passent et je laisse passer les autres. Donc c'est déjà le premier point. Or, dans ce point, il faut que les assureurs acceptent d'assurer ces bateaux. Le minage des détroits, dont on sait qu'il est fait dans certaines zones, et le risque que les Pazarans utilisent leurs armes, leurs missiles courte portée et leurs bateaux et leurs sous-marins, parce qu'ils ont des petits sous-marins de poche, pour couler ces bateaux. Donc, existe. Donc, ce qu'il faudra examiner, surtout dans ce blocus, c'est premièrement, est-ce que le flux des bateaux autorisé ou autorisable va passer.
Vous dites qu'il y a un premier blocus, c'est celui des assurances. D'ailleurs, très peu de bateaux passent à présent.
Combien on en a de bateaux, on le sait, précisément ou pas ?
Qui passent jour après jour ?
Non, là, en ce moment, stockés.
On en a un peu plus de 900.
Un peu plus de
900. Et en fait, l'enjeu ici, c'est pas tant un blocage par les assurances, parce qu'un assureur va vous faire payer un premium, c'est-à-dire une prime d'assurance très chère, si le risque est très élevé. Là, ce qu'on voit, en fait, et pour s'en rendre compte, il faut regarder ce que propose Lloyd's List, par exemple, basé à Londres, qui effectivement fait la liste de toutes ces choses-là. L'idée, c'est que les armateurs ne demandent même pas de prime d'assurance, parce que les armateurs ne veulent eux-mêmes pas passer. Pourquoi les armateurs veulent pas passer ? Parce que, justement, il n'y a pas de lisibilité politique ni d'un côté, c'est-à-dire les États-Unis, ni du côté iranien, premièrement. Deuxièmement, le risque est évidemment trop grand. Même s'il y a le cessez-le-feu qui arrive à tenir, on voit bien que ce cessez-le-feu, de fait, ne lève pas les risques liés, par exemple, aux mines. Et le dernier point, c'est que tout simplement, on a beaucoup de flottes qui, malheureusement, les équipages ne sont plus à bord des bateaux.
Mais l'idée, c'est de faire plier les autorités iraniennes de la part de Donald Trump. Justement, quelles sont les conséquences économiques pour l'Iran immédiatement? Si ce blocus tient là pour plusieurs jours.
Alors déjà, la première question, c'est est-ce que ce blocus va tenir ? Alors vous posez la question tout à l'heure, on sait que Donald Trump peut effectivement frapper et couler des navires parce que c'est exactement ce qu'il a fait il y a plusieurs mois dans la Caraïbe.
Il précise les navires d'attaque rapide. Il n'a pas dit tous les navires.
Mais souvenez-vous. Souvenez-vous, dans la Caraïbe, au large du Venezuela et dans les eaux de plus en plus proches, évidemment, de la partie nord de la Caraïbe, les États-Unis frappaient les bateaux de narcotrafiquants sans aucune sommation, en dehors de tout droit international, et ça ne posait pas de problème. À l'administration Trump, j'entends. Donc ici, on peut se poser la question sur des navires qui sont des petites prises politiques. Typiquement, vous avez un navire qui n'est pas un navire iranien, un navire qui n'est pas chinois, mais un navire qui est d'un pavillon de complaisance et qui s'est servi en pétrole ou en gaz iranien et qui l'exporte en dehors du détroit d'Ormuz. Fondamentalement, ça peut être une prise politique, c'est-à-dire on va frapper, on va couler le bateau parce que politiquement, ça va pas coûter cher. Et ça envoie un signal. Mais, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que le moindre bateau coulé sera de toute manière effectivement un signal, et vous avez effectivement un certain nombre d'États, à commencer par la Chine, à commencer par l'Inde et bien d'autres, qui de fait disent très clairement, attention, si vous frappez le moindre navire, de fait, on va avoir des représailles.
Mais quelles conséquences pour l'Iran concrètement, le fait de plus faire passer de pétrole par ce détroit d'Ormuz?
C'est énorme, parce que
le nerf de guerre.
L'Iran continue à exporter quand même depuis l'île de Kar, qu'on voit tout à fait au haut de la carte, donc au nord-ouest du golfe Persique, 90% de son pétrole par cette île, donc ça fait à peu près 1,5 million de barils le jour. Si ça s'arrête, c'est dramatique pour les passes d'Aran. Et c'est intéressant de voir que le curseur du régime est passé d'un régime, on va dire, plutôt religieux, à un régime militaro-religieux, voire totalement militaire, avec Ghalibaf qui est à Islamabad, donc le chef des forces d'Aran maintenant, bien sûr avec Robard et encore
d'autres chefs de Mollahs. Les Mollahs ne sont plus au pouvoir, ce sont maintenant les gardiens de la révolution.
Les gardiens de la révolution, qui contrôle, pour répondre à votre question, 60% de l'économie de l'Iran, et c'est 80% de recettes qui viennent des hydrocarbures. Donc, je dirais qu'il y a les deux côtés, parce que les passes d'Aran ont intérêt pour eux-mêmes, les 200 000 hommes, la parentèle, les hommes qui sont affiliés, les bazaris, donc les grands commerçants du bazar. C'était un grand commerçant d'ailleurs du bazar, un bazari, donc qui avait donné une prime, entre autres, de $60,000, vous savez, pour extraire le deuxième pilote, etc., etc. Il y a quand même des gros intérêts économiques en jeu. En même temps, c'est un pays, enfin un régime plutôt islamique, radical, qui est en 79, un an après, il y a eu une longue guerre entre l'Iran et l'Irak, 8 ans de guerre, 80 à 88, et la guerre des pétroliers a commencé en 82. Le régime a tenu 8 ans, au prix de 1 million de morts des deux côtés, un côté irakien comme côté, enfin au total avec le côté iranien. Donc il y a, je dirais pas une résilience, mais il y a une forme d'économie de subsistance ou de guerre. Mais ce régime-là,
la population vit quand même difficilement déjà avec
totalement
une inflation record.
Totalement, l'ottoman est totalement dévalué. De toute façon, il n'y a plus de change. Auparavant, ça se passait beaucoup avec les pays du Golfe, dont Dubaï. Il y avait des dizaines de milliers d'Iraniens à Dubaï. Il y avait plusieurs centaines d'entreprises. On parle de 8000 entreprises iraniennes qui étaient à Dubaï, dont des banques qui servaient de chambre de compensation, grosso modo, pour recevoir les échanges monétaires qui n'étaient plus donc codifiés par le système international. Donc, il y a quand même beaucoup de pertes pour les passes d'Aran, mais en même temps, c'est un régime qui peut tenir. Troisièmement, et le New York Times en parlait, Trump croit encore à la révolte populaire. Oui. Moi, je n'y crois pas pour l'instant.
Pourquoi?
Parce qu'il y a eu 30 000 morts, voire 40 000 morts, comme me disent les amis iraniens, les 8 et 9 janvier. C'est à ce moment-là, évidemment, qu'il fallait intervenir. Là, c'est un peu trop tard. On va dire qu'il va se passer quand même un petit peu de temps avant que les Iraniens puissent à nouveau se révolter dans la rue. Et ça n'a pas été paramétré, on va dire, par Trump. Alors que la CIA le savait parfaitement, et avait informé, bien sûr, la Maison-Blanche.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, c'est qu'on a déjà 160 millions de barils de pétrole iranien qui sont déjà en mer, dans plus d'une centaine de navires qui font des tours sur eux-mêmes depuis des jours et des jours et des semaines, et qui, de fait, ne demandent qu'une chose, c'est de sortir du détroit. Donc ici, c'était très intéressant de voir le message du CENTCOM, donc du commandement central états-unien, disant qu'il pourrait y avoir une période de grâce, c'est-à-dire les bateaux qui sont actuellement en Iran sur des ports iraniens et qui veulent exporter des marchandises, pourraient, s'ils quittaient dans les 2 heures après le message, si je me souviens bien, sous le contrôle de Louis Gosset, avoir une période de grâce, c'est-à-dire sortir du blocus sans être inquiété. Donc, au fait, on a déjà pour l'Iran 160 millions de barils de pétrole qui sont en mer et qui attendent de sortir.
Et ce qui arrange les clients de l'Iran dans ces cas-là, absolument, bien évidemment, et fait un peu baisser la tension. Avant de continuer notre discussion, je voudrais qu'on aille à Abu Dhabi retrouver Boris Karlamov en direct pour BFM TV, parce que les pays du Golfe, des Émirats Arabes Unis, ne sont guère enchantés par cette espèce de bataille navale et de ses éventuelles conséquences, bien sûr.
Absolument, conséquence de ce blocus dans le détroit d'Ormuz, l'Iran met la pression sur les pays du Golfe. Il avertit qu'aucun port du Golfe ne sera en sécurité si les siens sont menacés. Téhéran qui menace donc de s'en prendre aux infrastructures portuaires de ces pays du Golfe, avec un point d'inquiétude ici aux Émirats Arabes Unis qui concerne les infrastructures pétrolières du port de Fujairah qui se situe à l'est du pays, un port ultra stratégique qui a déjà été la cible d'attaques de drones. C'était le mois dernier. Ce port pétrolier, il est le seul terminal pétrolier émirati donnant de l'autre côté du détroit d'Ormuz. Les prochaines heures ici s'annoncent donc cruciales, alors que cela fait désormais 5 jours qu'aucun missile, qu'aucun drone iranien n'a été lancé sur les Émirats Arabes Unis. Une vie qui a quasiment repris aujourd'hui, avec des habitants qui sont de plus en plus nombreux à accéder au bord de mer ou à se balader dans les rues. Mais tous espèrent ici que cette situation d'accalmie va perdurer dans le temps malgré les menaces de l'Iran. Il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis qui sont sous pression ce soir. Il y a également par exemple le Qatar. Le Qatar qui appelle justement à ne pas utiliser les voies maritimes comme des moyens de pression ou de marchandage. On sera bien évidemment très attentif aux prochaines heures ici aux Émirats Arabes Unis alors que la nuit est en train de tomber sur Abu Dhabi.
Boris Kharlamov avec Margot Savulis Gosset. Donc ces tensions maximales dans le golfe, ici, le détroit d'Ormuz.
Avec un paradoxe quand même, c'est que le Premier ministre pakistanais rappelle que le cessez-le-feu tient pour l'instant entre l'Iran et les États-Unis.
Oui, trois choses. La première, vous demandiez combien de tankers ont passé le détroit d'Ormuz aujourd'hui. Deux. Oui. Un chargé de gaz iranien et l'autre de pétrole destiné aux Émirats Arabes Unis.
Donc, c'était avant l'ultimatum, avant le blocus.
Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un cessez-le-feu qui tient et que Trump lui-même a dit qu'il tenait. Donc le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Troisièmement, le blocus va pas être mis en œuvre immédiatement. Ça va prendre plusieurs heures, si ce n'est plusieurs jours, avant qu'il ne soit effectif et que les ports iraniens soient effectivement bloqués. Donc, il y a toujours une marge de manœuvre. Et c'est pour ça que c'est intéressant, cette période actuelle, parce qu'en fait, on sent que des deux côtés, il est possible que la négociation reprenne. En tout cas, il y a des signaux qui sont adressés dans ce sens, du côté américain comme du côté iranien. On essaie de comprendre exactement pourquoi il y a eu un clash à Islamabad pendant le week-end, pourquoi la négociation s'est brutalement interrompu alors que le dialogue était plutôt, apaisé, entre guillemets, alors que ce sont deux pays en guerre. Il y avait, des deux côtés, une volonté de discuter. Et puis tout d'un coup, ça s'est un peu brouillé et finalement, Jim Evans a décidé de repartir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a eu lieu exactement ? Vous savez que pendant la négociation, le vice-président américain a téléphoné au moins 12 fois à Donald Trump pour faire le point avec lui, échanger, etc. Côté iranien, c'était plus compliqué parce que pour téléphoner d'Islamabad à Téhéran, sur des lignes sécurisées, avec des dirigeants qui se cachent par peur d'être éliminés par des frappes israéliennes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, à quel moment Gene Evans a mis le point sur la table en disant « soit vous acceptez, soit je m'en vais ». Et les Iraniens qui étaient à Islamabad n'étaient pas forcément en mesure de répondre précisément. Et on voit que cette situation fait que, en réalité, oui, il y a un blocus qui va être mis en œuvre, progressivement, avec, comme ça a été dit, une période de grâce pour permettre aux bateaux qui étaient déjà dans les ports d'en sortir. Donc, c'est pas, je dirais, un blocus à 100% total aujourd'hui. C'est le début d'un processus, d'une potentielle escalade, parce qu'effectivement, si des bateaux américains se positionnent devant les ports, il peut y avoir une réponse de l'Iran, une réponse militaire. Et puis, il faut pas oublier un facteur quand même, c'est que du côté d'Israël, Benjamin Netanyahou a clairement dit que lui, il était prêt à reprendre les activités, la guerre en fait, les bombardements sur l'Iran à n'importe quel moment. Donc il y a toujours une double menace d'intervention israélienne et américaine et en même temps une période
peut-être
qui va durer jusqu'au 21 avril.
De reprise des négociations. Mais ce blocus ne concerne pas seulement l'Iran, il concerne tous les pays qui commercent, et notamment la Chine, l'Inde. Alors comment les Chinois vont réagir si ce blocus se met en place et dure ?
Et c'est le test ultime justement. Si on a un navire chinois effectivement qui sort d'Iran et que les États-Unis ne font rien, de fait, est-ce qu'on peut dire que ce blocus est crédible ?
Est-ce qu'on sait s'il y en a déjà ? Est-ce qu'il y a des navires chinois qui sont...
Il y a un navire chinois au début de la guerre, début du blocus. Un navire chinois est passé en indiquant qu'il était chinois.
D'accord.
Et il y a de plus en plus un lien économique entre, d'une part, l'Iran, fournisseur de pétrole pour la Chine, qui en même temps lui fournit des biens manufacturés. Et vous savez, on a parlé du péage. puisqu'il y a encore quelques jours, les Iraniens disaient, voilà, vous voulez passer le détroit, vous payez un péage. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de paiements qui ont été faits en yuan, en monnaie chinoise. Ouais. Donc, il sera intéressant de voir, effectivement, quelle sera la réaction de la Chine, puisque la Chine a besoin de l'Iran pour son énergie, et l'Iran a besoin de la Chine pour ses produits manufacturés.
Mais la Chine ne peut pas laisser longtemps
se faire ce blocus. Oui, on est dans le premier round de négociations qui s'est achevé, donc, comme le disait Ulysse Gosset, à Islamabad, brutalement, et Trump a dit 21h, c'est long. C'est un peu risible quand on voit ce qu'a justifié donc l'accord sur le nucléaire de 2015. 2 ans au minimum, avec 5 pays derrière, de très bons experts nucléaires. Et l'accord donc a été déchiré littéralement par Trump 3 ans plus tard, 2018. Après, on est dans une deuxième phase qui est le rapport de force. La troisième phase, ce sera peut-être le deuxième round de négociation que veulent les Chinois pour répondre à votre question. On montre ses muscles, il y a le blocus, le contre-blocus, et chacun comprend évidemment qu'on est dans une guerre multidimensionnelle. Il y a le militaire par définition, il y a l'économique. Et la Chine, évidemment, est très inquiète. La Chine est vraiment paranoïaque depuis la première guerre du Golfe, 90-91, sur tout ce qui est axé, ou la sortie plutôt du Golfe Persique. C'était paramétré par les Chinois. Les Chinois importent 70% de leur pétrole du monde entier, principalement donc
l'Iran. Le pétrole iranien ne peut passer que par le détroit d'Ormuz.
Ah bah oui, absolument.
Parce que là, c'est important de le dire. Il n'y a pas d'autres moyens.
Il y a le passage par le nord, par la Turquie, mais une grande partie passe.
Il y a
le passage dans la mer Rouge. Il y a le Pakistan et la Turquie en particulier.
Il y a un port sur le Golfe d'Oman et la Caspienne.
Il y a la mer Caspienne.
Donc les Iraniens peuvent contourner alors.
Oui, mais la majorité de la production se passe au nord-ouest. Enfin, là exactement, d'ailleurs, dans la région ont été récupérés les deux pilotes, c'est le Rouzistan. 80% du pétrole vient de là. Donc, principalement, évidemment, c'est la mer comme source de. On ne peut pas sortir par l'Irak.
Ceux qui nous suivent, qui disent qu'il y a blocus, on imagine, on a mis bataille navale, les navires américains rentrent dans le détroit d'Ormuz, il y en a un qui bouge, boum, on le torpille, on le pilote. C'est pas comme ça que ça va se passer. Non, enfin, non. Comment est-ce que la flotte américaine va se positionner, surveiller du point de vue militaire alors ?
C'est toute la complexité, et je pense que c'est les raisons d'ailleurs pour laquelle il y a des bateaux. Le CENTCOM laisse passer des bateaux en disant vous allez passer. Il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que le politique dise vous allez me bloquer le détroit d'Ormuz, il y a 1000 bateaux qui doivent passer. Normalement, il en passe 100 par jour. Et comment le Central Command met ça en œuvre, c'est excessivement compliqué. Il faut arriver à la première étape à faire, c'est arriver à filtrer les bateaux, savoir quels sont les bons, quels sont les mauvais. Vous en avez une centaine devant vous. Vous disposez de quoi ? Vous disposez des deux destroyers qui sont rentrés dans le Golfe et de 4 navires côtiers qui sont basés dans les pays du Golfe. Donc avec tout ça, il faut mettre sur pied une opération qui va consister, un, à surveiller le dispositif mis en place par l'Organisation Maritime Internationale AIS, qui est obligatoire sur les bateaux. Donc ils doivent mettre en route un système qui automatiquement donne le nom du bateau, sa cargaison, son port de destination, son port de départ, etc. Et donc, la première tri va être de trier ceux qui allument ça et qu'on peut identifier, et ceux qu'on n'identifie pas. Après, ceux qu'on n'identifie pas dans tout cet espace, il faut les trouver. Donc, il va y avoir une couverture aérienne et des radars qui vont spotter ces bateaux, savoir exactement où ils sont.
On va regarder leur immatriculation, savoir où ils sont, par satellite.
Et ensuite, il y a le commandement de l'opération qui va donner l'ordre à l'une des frégates armées d'hélicoptères ou autres d'aller arraisonner l'un des bateaux.
On va pas. Quand on l'arraisonne, ça veut dire qu'on prend le commandement du bateau.
C'est pas
on dépose l'équipage et c'est, c'est
après vous avez tout ce déroulé des opérations avant. C'est pas une herse de gendarmerie sur une route départementale. Non. C'est des milliers de bateaux.
Et admettons qu'il y ait plusieurs bateaux.
Alors, attendez, une précision qu'il faut donner aux téléspectateurs. Ce n'est pas le blocus de tous les trois d'Ormuz, comme
dit.
C'est le blocage des ports.
Oui, des ports.
Ça veut dire qu'on peut
aller
bloquer les ports et laisser passer un certain nombre de bâtiments. Ensuite, comment les Américains peuvent-ils faire ? D'abord, il faut rappeler que ça prendra du temps.
Voilà.
Et ça a été dit, ça va ne pas se faire en un jour. Ça lèche une marge de négociation, etc. Mais le jour où ça arrive, eh bien, on peut avoir des moyens aériens, c'est-à-dire pas simplement des bateaux de guerre, mais des moyens aériens qui, par exemple, donnent des coups de semonce en tirant à côté des bateaux qui pourraient éventuellement sortir ou à l'entrée des ports. Ça peut être d'abord une mise en garde. Ensuite, s'il y a une poursuite du mouvement, ça peut aller plus loin. Donc ça va prendre beaucoup de temps.
On a bien compris, mais quel est l'objectif de Donald Trump avec ce blocus? C'est la reprise des négociations, mais avec des Iraniens qui seraient dans l'optique d'accepter toutes les conditions américaines. Quel est l'objectif?
C'est d'abord un signal politique adressé à l'Iran et au monde pour dire nous n'accepterons pas le blocage du détroit d'Hormuz. Il faut rétablir la liberté de navigation. Ça, c'est l'affirmation claire. Ensuite, la mise en place du blocus, on va voir. Mais le message, il est très
clair. Donc, il veut débloquer le détroit en bloquant.
Et c'est une façon aussi pour Trump. C'est une façon de dire aussi pour Trump, aux Iraniens, vous voyez de quoi je suis capable, donc vous avez intérêt à revenir à la table de négociation.
C'est du rapport de force, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Première ronde de négociation, rapport de force aujourd'hui, et peut-être deuxième ronde un peu plus tard, que veut la Chine. En revanche, dans cette deuxième phase, il y a des grands risques, il peut y avoir des dérapages. Bien sûr, si jamais il y a un arraisonnement d'un bateau, alors il y a le bateau sous pavillon de complaisance à destination de la Chine ou de l'Inde, ou le bateau à pavillon chinois, ce qui est plus grave. Après, réplique de la part de cette marine non conventionnelle dont on est très peu à parler. Il y a des centaines d'embarcations. Si on regarde l'île de Keshem qu'on voit sur la carte, vous savez, c'est une espèce de grand rectangle. C'est 130 km de long, c'est grand comme la moitié d'un département français, comme la Côte d'Or ou la Corrèze, on va dire ça rapidement. Et ce sont les mêmes montagnes que Oman en face. Et là, vous avez, dit-on, des centaines d'embarcations qui sont là. Alors, il y a des zodiacs, ce sont vraiment des copies de zodiacs français. Le zodiac français fait de 2 à 9 mètres, le zodiac iranien fait 5 à 6 mètres.
Ça sert à quoi ces zodiacs?
C'est des bateaux rapides, qui peuvent être dronisés d'ailleurs, mais principalement...
C'est ceux qui ont menacé Donald Trump. Il a dit, on l'explose s'il y en a un qui vient.
Après, il y a la vedette Zolfara. Alors, c'est des vedettes qui font 16 mètres de long, c'est pas très grand. Discrétion, mobilité et super rapidité. C'est des engins, on va parler en kilomètres-heure, qui vont jusqu'à 400.
Ils sont armés, ces vedettes?
Ils sont armés. Il y a de la Dashaka, donc c'est la Doucette, mais surtout des canons de 106 ou des canons de mortier, donc c'est quand même pas mal. Et là, ça peut être dronisé, donc télécommandé, et évidemment, avec les gardiens de la révolution, qui sont des shahed potentiels, des martyrs potentiels, c'est tout à fait possible que ces cette marine non conventionnelle, puisse taper des bateaux, absolument, sortant de ces caves, de ces abris de Keshem, qui sont pratiquement irrépérables. Donc c'est ça l'inquiétude, j'ai plus une inquiétude là-dessus. Absolument, l'escalade, c'est que des mines.
Le New York Times disait qu'il y avait une douzaine de mines. Est-ce qu'elles y sont, ces fichues mines ou pas, dans le détroit d'Hormuz?
Les Américains disent qu'il y en a une douzaine, mais est-ce qu'elles sont fixes, est-ce qu'elles sont dérivantes, qui serait inquiétant?
Le gouvernement iranien a fait un plan où il y a une zone, zone interdite, disant voilà, là on a miné.
Voilà. Et là, il y a des inconvénients, parce qu'on ne sait pas où c'est, et c'est valable, évidemment, dans les deux cas, y compris pour les bateaux.
Finalement, la menace suffit.
On pense néanmoins que le fait que deux destroyers américains fassent route dans le détroit laisse penser que soit par des drones sous-marins, soit par d'autres moyens, les Américains ont un peu nettoyé la zone.
Je pense qu'ils ont suivi l'itinéraire que a fixé l'Iran pour passer, et qui est un itinéraire qu'emprunte et qu'ont emprunté les bateaux qu'on a cités, qui est deux ou trois par jour passent par là. Donc, ils sont passés pour montrer la possibilité de pouvoir passer et ne pas être attaqués par tout ce système. Le détroit d'Hormuz est très facilement tenu avec toutes les crêtes nord, pullulent d'armes et de missiles très courte portée qui peuvent être tirés sur les navires au ras des flots et qui sont quasiment indétectables au radar.
Ça n'a pas été éliminé par les Américains, là?
Ils ont beaucoup bombardé. Ça fait 15 jours qu'ils bombardent tout. C'est d'ailleurs là où ils ont eu un avion qui a été touché, parce que ils bombardent de près toutes ces cavités et ces bunkers où se trouvent des systèmes d'attaque de courte portée, mais suffisante, puisque il faut pouvoir tirer à 20 km, ce qui est trois fois rien avec les armements modernes.
Personne n'a intérêt ce soir à cette escalade, finalement, quand même.
Personne, parce qu'il y a le commerce des produits pétroliers. Deuxièmement, il y a le commerce des engrais. Les engrais, il y a 46% des engrais chimiques à base d'urée, par exemple. Il y a
des intrants pour faire des
potassium. Tout ça est transformé dans des super usines pétrochimiques du Golfe, parce que évidemment les produits soufrés et le pétrole sont sur place. Et ça impacte quoi? Il y avait un papier très intéressant dans la Carnegie Foundation, une fondation américaine, il y a 15 jours là-dessus, en disant les pays impactés, ce sont les pays du Sud, les pays d'Afrique, les pays d'Asie, etc. Avec un surenchérissement du prix des engrais nécessaires. Deuxièmement, un problème de récolte dans les semaines qui viennent, enfin d'ensemencement, pardon. Et troisièmement, un problème de récolte dans les mois qui viennent, en septembre, en octobre. Donc, on voit bien, c'est à la fois la Chine qui est touchée,
le Vietnam. C'est incroyable que finalement tout ça repose sur un détroit dans le monde. Enfin, c'est ce que les gens découvrent aussi, c'est que finalement, il n'y a pas que le pétrole, il y a les engrais.
Deuxièmement, il y a un autre détroit. Il y a un autre détroit qui est très intéressant, qui est une autre voie navigable naturelle, comme on dit en droit maritime international. C'est le détroit de Bab el-Mandeb, qui est en bas de la péninsule arabique.
Le détroit des
Houthis. Je sais pas sur la voie, c'est là. En arabe, c'est-à-dire la porte des larmes, c'est entre Djibouti et le Yémen. Les Houthis sont pas loin, effectivement. Là passe 10% du commerce mondial des marchandises et pas que du pétrole. Donc, si les Houthis rentrent en ligne de compte sur décret des Iraniens, ça va être très grave. Là,
pour l'instant, ils sont restés en retrait.
Absolument. Et ils ont bougé, d'ailleurs, quand même plusieurs jours après le début de la guerre du 28 février. Donc, vous voyez un peu l'implication mondiale sur l'économie, sur les engrais, sur l'agriculture et surtout sur les pays du Sud, donc l'économie globale, effectivement.
Je voudrais juste un mot avant qu'on aille en Israël. Il ne faut pas non plus qu'on oublie l'impact humain, parce qu'il y a 20 000 marins qui sont coincés à l'heure actuelle dans le Golfe, avec les problèmes psychologiques qu'ils ont, la détresse humaine qu'il y a. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut prendre en compte.
On va en Israël retrouver Angie Louata pour BFM TV, parce que là, on est focalisé, bien sûr, sur l'Iran, sur les États-Unis et ce blocus du détroit d'Ormuz, mais il y a d'autres négociations qui doivent commencer aussi entre le Liban et Israël, toujours sur fond de bombardement, Angie.
Effectivement, et oui, les Israéliens pour l'instant sont focalisés sur les opérations face au Hezbollah libanais. Ça c'est une certitude depuis plusieurs jours. La guerre continue toujours. On a ici une trêve et un cessez-le-feu qui est effectif, qui est réel, qui est respecté de part et d'autre avec l'Iran, contrairement à ce qui se passe depuis plus de 40 jours. En revanche, avec le Hezbollah, ça ne s'est jamais arrêté, si bien qu'aujourd'hui encore, il y a eu de nombreuses opérations militaires face à ce groupe dans le sud du Liban. Il y a la ville de Bint Jebel qui représente un enjeu stratégique extrêmement important pour les Israéliens. Ils l'ont encerclé ces derniers jours et sont encore désormais en train de faire des opérations à cet endroit-là. Et puis, il y a également les roquettes et les drones qui sont globalement en grande majorité interceptés dans les communes du nord du pays. Mais cela se poursuit et je vous le disais, il y a de nombreuses alertes qui ont retenti aujourd'hui dans le nord du pays. Ce que l'on peut ajouter simplement, c'est que ces négociations, elles s'inscrivent dans un cadre qui reste, malgré les déclarations d'intention des uns et des autres, un peu flou, parce qu'on le sait, il y a la volonté effectivement de discuter avec le gouvernement libanais. En revanche, quand on discute avec les Israéliens ici, on se rend bien compte que très peu de gens placent de l'espoir dans ces négociations, tout simplement parce que pour la plupart des gens, l'ennemi, ça n'est pas le Liban, ça n'est pas le gouvernement libanais, non, c'est exclusivement le Hezbollah. Voilà donc pourquoi a été annoncé à plusieurs reprises, notamment par Benjamin Netanyahou, qu'il n'y aura de toute façon pas de cesser le feu avec le Hezbollah, mais que ces négociations auront bel et bien lieu demain. Vous dire ce qu'il en ressortira, vous dire si cela représente un espoir pour les populations, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, aujourd'hui c'est totalement impossible. En revanche, ce que l'on sait, c'est que certaines personnes les attendent tout de même de pied ferme, mais que, vous le voyez, les opérations militaires, elles, ne se sont pas arrêtées pour autant.